Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile, vous êtes là, vous êtes bien, on est bien dans Roten sans flamme, spécial Coupe du Monde avec Jean-Louis Tour en direct de Doha, avec Manu Petit, avec Timothée Mémon sur le match Portugal-Ghana. Vous rentrez certainement d'une journée de travail compliquée dans la fraîcheur, du moins je dis la fraîcheur, maintenant c'est plus de la fraîcheur parce qu'il fait très froid dans la région parisienne et sur la France en règle générale. Donc bon courage à vous, restez bien avec nous, on vous fait vivre ce match en intégralité et il va y avoir des buts en deuxième mi-temps.
Exactement, c'est reparti, Portugal-Ghana sur RMC.
Votre match sur RMC avec Groupe Verlaine, expert de l'isolation par l'extérieur et du photovoltaïque pour maisons individuelles. Groupeverlaine.com. RMC, Coupe du Monde de la FIFA 2022.
Allez, on y va, les joueurs reviennent, Timothée.
Alors attends, juste avant Timothée Mémon, le Brésil a-t-il réglé ses soucis? Voilà le programme de l'heure qui vient, mais également à 18h30. Pourquoi les stades sont-ils si peu remplis? On a des infos à vous donner sur le sujet. Et bien sûr, l'équipe de France, on retrouvera Fabrice Hawkins dans quelques secondes pour les infos de la journée. Mais on va se reposer sur le match Portugal-Ghana, Timothée Mémon.
Ouais, c'est en tout cas pour le stade du 974 ce soir, il est bien plein. Hein. Franchement, belle affluence dans ce stade de 44 000 places. Allez, le coup d'envoi de l'hebdomadaire, période donnée à l'instant par André Ayou. Les Ghanéens qui n'ont rien proposé en première période vont essayer peut-être de faire quelque chose dans cette seconde mi-temps, alors qu'il me semble qu'il y a un changement de système. D'ailleurs, côté Ghanéen, il n'y a pas eu de changement de joueur, mais il me semble qu'il y a un changement de système parce qu'on semble passer en 4-4-2. On va quand même vérifier ça au fur et à mesure de cette deuxième période. Pas de changement non plus côté portugais, des portugais qui se sont procurés quelques occasions, notamment en tout début de match avec Cristiano Ronaldo qui s'est présenté face à Ziggy, qui a perdu son duel, la faute à un contrôle un petit peu hasardeux et puis une tête où Ronaldo avait pris le dessus comme il sait le faire en montant très haut dans le ciel de Doha, mais où il n'a pas su rabattre le ballon dans la cage de Ziggy. On en reste donc à 0-0 après une première période moyenne, on peut le dire, de la part des portugais. Ballon sur le côté gauche là quand même avec une possibilité, la montée d'Otavio. Otavio qui va déborder, Otavio qui va peut-être pouvoir centrer. Ce ballon, il a été touché. Est-ce que ce sera un corner? Il me semble que ça aurait dû l'être. En tout cas, monsieur Ismaïl Elfat, l'arbitre américain de cette rencontre, va expliquer que ce sera un 6 mètres et va réprimander Cristiano Ronaldo qui s'en plaint. 0-0 après 46 minutes de jeu.
On va rester un peu sur le match, hein, voir la physionomie de cette deuxième période par rapport à ce qu'on a vu en première, si c'est modifié ou non, si le Ghana arrive à sortir un peu. Bon, et là, ils sont en possession du ballon, Timothée.
Ils sont en possession du ballon et ils sont finalement bien restés en 5-3-2. Attention à cette récupération très haute de la part des Portugais. La possibilité pour les hommes de Fernando Santos de dresser un centre. Finalement, João Cancelo va laisser Bruno Fernandes le faire, mais ça a voulu jouer petit vers Bernardo Silva. Un ballon chippé par les Ghanéens et récupéré rapidement par Bruno Fernandes qui a obtenu la touche. Touche laissée à João Cancelo, le joueur de Manchester City qui va essayer de trouver des partenaires. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Finalement, c'est Bernardo Silva qui vient solliciter ce ballon, le récupérer et jouer en retrait, loin derrière vers Ruben Dias, le défenseur de City également, avec Danilo Pereira. Ballon pour Rafael Guerreiro. Guerreiro qui a fait mine d'accélérer, mais c'est très arrêté côté portugais. Manu, Jérôme, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a la volonté de créer. Le porteur du ballon a souvent de bonnes volontés, des velléités offensives, mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas du côté des partenaires. Il n'y a pas d'appel.
Ouais, c'est pas facile, hein, pour les Portugais, parce que cette défense ghanéenne, elle est regroupée, elle est très basse. Donc soit tu passes par les côtés et t'essayes de faire descendre, ce qu'ils ont essayé de faire. Après passer par l'axe, à part déclencher des frappes pour essayer de les faire sortir, parce que je trouve qu'ils s'entêtent à faire des petites passes aux abords de la surface, à essayer de trouver systématiquement Cristiano Ronaldo. Mais les milieux de terrain, ils ont le droit aussi de prendre leur chance, quoi, de frapper de 25 mètres, 30 mètres, pour essayer de surprendre cette défense. Et après, ça va les amener à libérer quelques espaces quand même, je pense.
En tout cas, Jérôme, Otoado, il est en train de réussir son pari parce que manifestement, il est venu pour prendre le match nul dans ce groupe en se disant qu'il y aurait peut-être des points à prendre plus tard face à la Corée du Sud. ou face à l'Uruguay peut-être, même si ce sera quand même des matchs difficiles pour le Ghana. Ballon dans la profondeur vers André Ayou. Oh, le retour défensif impeccable de la part de Ruben Dias. Quelle autorité et quelle grinta dans cette prise de balle avec Otavio qui se fait découper et carton jaune sorti à l'encontre d'un joueur ghanéen. Et c'est Partey qui a été averti pour cette intervention sans ménagement sur Otavio qui va rester au sol, mais voilà, qui va pouvoir tenir sa place pour la suite de la rencontre. Toujours 0-0 après 48 minutes de jeu.
On revient vers toi très vite. Mais avant cela, l'actu des Bleus, comme toutes les heures sur RMC, dans Rotten sans flamme et l'intégrale Coupe du Monde. Fabrice Hawkins est de retour avec nous. Rebonsoir Fabrice.
Salut Fabrice.
Rebonsoir.
Alors refais-nous un peu la journée des Bleus, les infos à retenir de l'entraînement et ces conférences de presse où on a vu des joueurs assez détendus. J'ai l'impression que la vie de groupe se passe bien, même si on dit souvent le groupe vit bien. Mais là, j'ai l'impression que c'était vrai.
Non mais c'est vrai, c'est pas galvaudé. Franchement, moi, de tous les retours que j'ai certains d'entre vous en ont aussi, Jérôme, Daniel, etc., le groupe vit bien. Franchement, le groupe vit bien et c'est pas à mentir que de le dire. Après, ça a commencé un petit peu plus tristement ce matin puisqu'ils ont vu leur coéquipier Lucas Hernandez qui s'est blessé mardi dernier quitter l'hôtel Al-Messila, là où ils sont. Évidemment, rupture des ligaments croisés, donc il va s'en aller, il se fait opérer très très rapidement en Allemagne. Ça, c'était le moment en tristesse. Et puis ensuite, ils ont enchaîné avec un réveil musculaire, ça ils en ont l'habitude, un déjeuner tout court au cours duquel les Bleus ont pu assister à la victoire de la Suisse contre le Cameroun. C'est Matteo Guendouzi qui nous le disait tout à l'heure. Ils essayent de regarder presque tous les matchs, les petites équipes comme les grandes nations entre guillemets. Derrière, la petite sieste. Ensuite, certains ont reçu la visite de leur famille, moment de convivialité pour retrouver ses proches. On sait que ce sont souvent des moments attendus par les joueurs. Et bien là, certains ont pu bénéficier d'un petit quart d'heure avec la maman, avec le frère, avec la sœur également. Il y en aura d'autres d'ailleurs, des moments comme ça après le match contre le Danemark notamment. Dans la foulée, direction le stade Jassim Bin Hamad où les Bleus ont l'habitude de s'entraîner. Matteo Guendouzi, Marcus Thuram ont parlé en conférence de presse. Matteo Guendouzi questionné notamment sur son caractère, sur sa capacité à rester sur le banc sans broncher. Il a dit qu'il était là évidemment pour le groupe et qu'il allait absolument rien dire et que l'objectif c'était d'avancer en... Ouais, mais il n'a pas le choix, tu as raison. En tout cas, il a plutôt bien répondu, il n'est pas tombé dans le piège. Marcus Thuram, lui, sur son positionnement d'attaquant, puisqu'il évoluait lorsqu'il a été appelé pour la dernière fois en équipe de France, plutôt sur le côté. Voilà, il a dit qu'il adorait marquer, qu'il se sentait aujourd'hui comme un numéro 9 et que...
Fabrice, oui. Moi je te coupe, excuse-moi, mais ce qui est gênant dans tout ce que tu me dis, c'est qu'on met beaucoup en avant cette ambiance de groupe depuis le départ de Karim Benzema. Et j'ai l'impression que c'est depuis son départ que d'un seul coup le groupe vit bien. Et moi ça me dérange. Vraiment ça me dérange.
Mais il est parti dès le départ.
Le raccourci.
Ouais, Jérôme, il est parti dès le départ. Il est parti dès le départ. Il n'a pas eu le temps vraiment de s'imprégner de cette ambiance ici à Doha aussi.
Fabrice, on entend des choses. On entend des choses. Moi, j'entends certains réagir. Alors, quand vous dites des trucs...
Alors, tu sais ce qu'on va faire, Jérôme?
Oui.
On va faire ce débat. Et là, c'était un teasing magnifique dans une heure. Puisqu'on va parler de Kylian Mbappé, on va parler de l'entente dans l'attaque des Bleus, sein de l'attaque des Bleus, et je pense que ça rentrera parfaitement dans ce que tu es en train de dire.
Tu penses ?
Je pense.
Bon, bah, si tu penses, si tu es dans ma tête, ça va alors. Non. Écoute, je te laisse.
Non,
je te laisse.
Les relations offensives,
non, mais moi,
qu'est-ce qu'on raconte ?
Moi, en fait,
on entend beaucoup
non, parce que moi,
on y entend souvent qu'ils s'entendent bien parce que Benzema n'est plus là.
Là, c'est l'ambiance collective.
Ouais.
Tu vois, c'est pas lié à Kylian, on va parler de Kylian tout à l'heure. Mais. J'entends plein de choses. Alors soi-disant, il y en a qui étaient soulagés de son départ, ça a libéré certains. Moi ça me dérange. Ça me dérange parce que pour moi, je parle de moi, je parle pas de Fabrice, je parle pas de Daniel, je parle pas d'autres personnes qui ont des infos et qui creusent. Moi j'ai pas d'infos là-dessus. Et j'espère juste que c'est faux tout ce que je peux entendre parce que je peux dire
c'est que le groupe dit bien.
Oui, mais est-ce qu'il vivait aussi bien quand Karim était là?
Il vivait bien, on avait les mêmes échos. Ça se passait bien.
Non, mais Fabrice, j'ai pas l'impression, et te concernant, mais t'es pas le seul responsable, que quand Karim était là, on mettait ça en avant. On mettait l'ambiance du groupe, magnifique, tout va bien, ça se passe bien, ils sont unis. Au contraire, on sentait par moments qu'il y avait moins d'union qu'en 2018. C'est la réalité, moi je le disais.
Là, victoire,
et ça se voit même sur le terrain.
Non mais là il y a eu une victoire donc forcément ça les a soudés, ils étaient menés au score. Il y a eu aussi un scénario qui a fait que effectivement peut-être qu'ils se sentent aujourd'hui un petit peu plus proches, ça c'est vrai.
D'accord. Et Manu, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as le même retour que moi ou la même sensation que moi.
Écoute, moi j'ai pas envie de polémiquer là-dessus parce que Karim, il est pas à la Coupe du Monde, donc parler de joueurs absents, pour moi c'est alimenté.
Non, mais sur l'ambiance, est-ce que toi tu constates
qui dit chose... ça, qui dit ça,
ben,
qui
aujourd'hui vit mieux aujourd'hui. Non mais on parle souvent là en ce moment depuis la victoire contre les grands Australiens, que ça d'un seul coup. Le groupe, il vit bien, on met ça en avant. Le groupe vit bien. Ouais, et on commence à entendre des choses depuis le départ de Karim. Bah, y en a qui sont un petit peu soulagés. Et ça, moi, tout ça, ça me dérange.
Ah, bah, si c'est avéré, oui, moi aussi, ça me dérange. Parce qu'on se rappelle tous du retour de Karim en équipe de France. Et ça a créé beaucoup de surprises. Et le premier concerné, c'était Giroud, qu'on oppose toujours encore aujourd'hui, alors que Benzema n'est pas à la Coupe du Monde. Et quelque part, si c'était avéré, moi,
et
ça me dérange aussi parce que ça voudrait dire qu'il y a certains joueurs qui disent des choses à certaines personnes, en fait, en privé.
Bon, Fabrice, merci en tout cas pour
merci
tes
Fabrice.
Simplement, petite précision, messieurs, sur qui simplement sur Kingsley Coman, qui est sorti un petit peu prématuré de cet entraînement juste après l'échauffement. Bah, on se demande un petit peu quand même ce qu'il a, parce que la communication officielle, c'est la hanche. Hier, lors de la petite opposition, il se plaignait plutôt des adducteurs. Donc ça va être aussi une situation à surveiller de très près.
Ouais, il faut suivre.
Merci,
puis,
Fabrice.
Puis c'est sûr que pour préparer Kingsley Coman,
la tentative de frappe ghanéenne, elle passe juste à côté. Ouais, ils se sont laissés surprendre, la tentative de Kudus. C'est le meilleur ghanéen sur la pelouse depuis le début de cette rencontre, à n'en pas douter. Il a réussi un rush à lui tout seul face à une défense portugaise un peu attentiste. Une frappe sèche, puissante, qui est venue raser le sol et frôler le poteau de Diogo Costa. Attention, les Portugais, à ne pas être trop attentistes.
Alors merci Fabrice Hawkins pour les infos équipe de France. À 19h, on revient sur les Bleus. Mbappé a-t-il pleinement réussi son match contre l'Australie? Et Fabrice nous parlera de cette fameuse complicité en attaque entre les joueurs, mais sans faire de lien avec l'absence de Benzema. Voilà.
Ah non, mais de toute façon, j'espère. Parce que on ne fera pas de lien et j'espère le voir au même niveau contre le Danemark. Là, le niveau s'élève et là, il y aura moins d'excuses. L'adversaire sera de qualité. S'ils en remettent autant ou qu'ils se trouvent autant qu'ils se sont trouvés contre l'Australie, on dira beaucoup de bien.
On va débattre autour du Brésil dans un instant, mais on refait un point sur le match Portugal-Ghana, Timothée Mémon.
Avec un blessé, c'est Otavio qui va sortir et devoir céder sa place à Carvalho. Il est resté sur le sol de la pelouse du stade 974 il y a quelques instants. Carvalho va rentrer, c'est du poste pour poste bien évidemment. Ça n'a pas l'air d'être trop méchant pour Otavio qui sort en marchant normalement, qui est en train d'expliquer à Fernando Santos justement la nature de ce qu'il a ressenti. Fernando Santos n'a pas l'air non plus de s'en inquiéter outre mesure. En tout cas, 0-0 dans cette rencontre après 56 minutes de jeu.
Suite de cette rencontre, les changements vont-ils être efficaces? Le Ghana va-t-il continuer de sortir la tête de l'eau? Première frappe dangereuse à l'instant. Le match s'est sans doute équilibré. On va vérifier ça dans quelques secondes. Restez avec nous sur RMC. Portugal-Ghana, plus débat autour du Brésil dans Rotten sans flamme.
RMC jusqu'à 20h. Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h15 dans Rotten sans flamme, spéciale Coupe du Monde. Et oui, vous entendez ça, c'est le Portugal. Bon, pour l'instant, c'est pas l'euphorie. Hein, Portugal 0-0 contre le Ghana. Pour l'instant.
On va vite retourner sur le match, t'as raison, Manu. Avec Manu Petit.
Ouais, la couleur pourrait changer.
Parce qu'il y a une possibilité. Oui, attendez, restez calme. Du calme. Tout va bien.
Sorti à l'encontre pour l'instant d'Alidou Seydou. Il peut revenir sur sa décision, évidemment. Monsieur Ismaïl Elfass, l'arbitre américain de cette rencontre. Parce que après un duel avec Joao Félix, eh bien, ils se sont relevés, ils se sont percutés. Joao Félix est venu faire front contre front. Mais Seydou a clairement fait le geste du coup de tête sur le nez de Joao Félix qui est resté au sol. Il y en a probablement rajouté un tout petit peu, qui va pouvoir se relever. Il y aura seulement un carton jaune sorti. Ouais, il fait un vilain geste. Il aurait clairement pu prendre un carton rouge. Monsieur l'arbitre va être pédagogue. On en reste pour l'instant à 0-0 après 59 minutes de jeu.
Oui, là c'est rouge normalement.
C'est rouge parce qu'il y a tête contre tête au départ, si ça a été resté là, mais il fait le geste vraiment pour lui faire mal, pour lui écraser le nez derrière. Donc
l'intention vaut rouge.
Si là la VAR n'intervient pas, en fait, il ne faut pas s'en servir. C'est ce que je te disais tout à l'heure.
Que sur les rouges, on laisse beaucoup, enfin peut-être aussi parce qu'on a été mal habitué en Ligue 1.
Non, ils ont pris le contre-pied de la Ligue 1, c'est peut-être pas. Et depuis que Gary Bien est plus là, ils se sont dit oh là là, on va pas faire comme lui.
Pourquoi on fait tout.
Et puis, je vous rappelle quand même que le carton rouge, c'est sur un rouge manifeste. Dans la mesure où l'arbitre a sorti un carton jaune, la VAR estime que la sanction a été prise et qu'elle a été prise dans son âme et conscience par l'arbitre. Donc en général, quand il y a un carton jaune, on n'en revient pas. Ah oui. C'est quand il y a un oubli total qu'on revient sur un potentiel carton rouge.
Alors, dans les minutes qui viennent, ça dans Rotten sans alors. Flamme.
Ouais, c'est ça, je peux
pas sur ce cas-là. Pourquoi les stades sont nous emmerder. Expliquez-moi.
Alors, attendez, je vous donne juste une petite consigne. Je le fais habituellement.
Ouais, bien sûr. Dire des choses qui sont du dictionnaire.
Juste, c'est
ça
laissez-moi poser. Non, c'est même
mais
pas
à
ça,
un moment
Manu,
donné, le poids des mots.
Manu,
aussi,
juste arrête de couper tout le temps, c'est tout. Laissez-moi juste poser le débat deux secondes. Après, je vous redonne la parole et vous dites tout ce que vous voulez. Mais juste, sanctuarisons deux, trois
attention
trucs.
Attention à cette mauvaise relance de la part des Ghanéens. La possibilité, peut-être pour les joueurs du Portugal avec ce ballon récupéré par Bruno Fernandes. Bruno Fernandes pour écarter sur le côté droit vers João Cancelo. Nouvelle possibilité de centre. Le retour défensif des Ghanéens où ils se sont fait très, très peur, les Ghanéens. Sur une relance où ils se sont fait chipper le ballon à l'entrée de leur surface de réparation. Ils s'en sortent pas mal du tout. Une heure de jeu, 0-0 entre le Portugal et le Ghana.
Alors Manu, qu'est-ce que tu voulais dire sur la VAR? Qu'est-ce qui te
De plus en plus, elle n'a aucune utilité. Et qu'elle est en train de bousiller le football, en fait. Voilà, c'est voilà. Tout ce que j'avais à dire.
Ouais, bon, après, je...
Mais après, c'est toujours depuis qu'elle a été créée, est-ce qu'elle a, elle a rectifié des injustices, mais elle a rajouté des problèmes. Elle a surtout, elle a déresponsabilité les arbitres dans le corps arbitral, dans la décision, les responsabilités sur le terrain.
C'est-à-dire qu'on la preuve que non, là, sur ce coup-là.
Non,
Manu.
Mais là, ils auraient très bien pu, avec la VAR, dire, écoute, pourquoi on s'en sert alors que sur des. Parce qu'hier, j'ai pas vu, moi, la VAR intervenir aussi sur des choses qui ont été scandaleuses lors du match Canada-Belgique.
Ouais, non, mais.
Excusez-moi, les gars,
il y a eu des pénaltys oubliés.
Moi, devant la télé, je me dis, mais à quoi ils servent ces mecs, quoi?
C'est pas faux, mais là, par exemple, c'est typique sur l'action, Manu. Dans ces cas-là, la VAR, elle permet une chose, c'est de rectifier une grosse erreur. Là, ils ont fait confiance à l'arbitre du centre. L'arbitre du centre a mis un carton jaune. Donc il a vu.
Front contre front, coupe
non,
du
mais,
monde.
Mais s'il alors, a mis
moi,
un carton jaune. Manu.
J'ai pensé pour tous les arbitres sur le football amateur, en fait. Ce qui va se passer
Manu,
chaque week-end.
Manu, est-ce que là, sur ce coup-là, ils l'ont pas bien utilisé par rapport à ce que tu nous dis? C'est qu'ils ont fait confiance à l'arbitre du centre.
Non,
qui
mais
a vu
quand même du
non, mais il
gagné,
l'a vu.
Hein, alors
il l'a vu, sinon. Non, mais il a vu ce geste-là. Mais à vitesse réelle, peut-être que dans le feu de l'action, il se dit, il a abusé, mais je ne vais pas lui mettre un rouge parce que je comprends un peu la réaction du joueur gagnant.
Non, mais attendez, les gars, il faut préciser une chose. C'est que le carton jaune, il ne le prend pas parce qu'ils sont front contre front. Il le prend sur l'intervention juste d'avant qu'il a fait sur Philippe, tu vois. Donc c'est derrière, il y a cet enchaînement où tous les deux se relèvent, il y a altercation front contre front et on voit bien le geste du Ghanéen. Donc quelque part je me dis, bah s'il peut le faire, c'est pas sanctionné.
Oh, la pénalty en faveur du Portugal avec cette déviation dans la surface de réparation de João Félix en Madjer. Un bel hommage pour trouver Cristiano Ronaldo qui rentrait en pleine vitesse dans la surface de réparation qui est déséquilibré et l'arbitre
il est gentil, le pénalty,
donne pénalty avec ce duel et cette faute de la part de Salissou.
Non mais il y a un contact. Donc étant donné qu'il a sifflé,
il prend pas le ballon. Hein.
Non mais voilà, c'est pour ballon, ça. Il y a un contact. Alors après Cristiano, il est très malin hein, quand même. Il a
les
pouce, regarde.
Ouais, les deux touchent le ballon.
Ouais, non mais il y a un contact. Il y a un contact, Manu. Il y aura le penalty. Il sera. C'est exactement le problème de la VAR là-dessus.
Il sera maintenu.
Il y a un contact qui sera maintenu. Ah oui.
Ah ben ça c'est sûr. On le voit. Il n'y a même pas de VAR. Il n'y a même pas de check VAR.
Non, pour l'instant, monsieur l'arbitre, monsieur Ismaïl Elfat, est en train de signaler, de demander aux joueurs ghanéens de sortir de la surface de réparation, de demander également à Ziggy d'aller dans sa cage. Et Cristiano Ronaldo va potentiellement pouvoir frapper ce penalty avec André Ayou qui est en train de demander justement, est-ce que vous êtes en train de le checker avec l'assistance vidéo à l'arbitrage? Monsieur l'arbitre lui demande simplement de s'en aller. Il ne fait pas le signe du doigt vers l'oreillette.
Bah si, quand même de vérifier, non, Jérôme?
Non, mais il est vérifié. Dans l'oreillette, il lui dit, il y a contact, il y a pénalty, t'as pris la bonne décision, point final. Voilà, c'est
ça, ce Manu, ça va.
Mais parce que là, sur cette action-là, c'est difficile aussi de. Bien sûr que Cristiano, il en joue, mais il y a un contact malgré tout.
Non, mais
il touche pas le ballon, le.
Mais c'est pas parce qu'il y a contact.
Non, mais les deux touchent le ballon, Jérôme.
Oui, mais quand.
Il a raison, Manu, les deux touchent le ballon.
Les deux touchent le ballon, je suis désolé.
Les deux touchent le ballon, mais derrière, il y a un contact. Et l'arbitre, à vitesse réelle, estime que Ronaldo.
Les deux touchent le ballon.
Mais je suis d'accord avec toi, Manu. Je suis pas en train de te dire ça.
Et
je te
dis juste que pas derrière, enfin, qu'il ait pris sa décision comme ça.
C'est on va
pas
faire un le pénalty
flagrant, les gars. Hein.
Mais c'est
on,
le règlement.
On va faire le pénalty avec Timothée et après on reviendra si vous voulez sur l'action.
Le pénalty est confirmé en tout cas par l'arbitre de cette rencontre. Ziggy est dans sa cage, il fait un petit peu le show, il tape dans ses mains pour essayer de déconcentrer Cristiano Ronaldo. Allez, Cristiano. 7 buts en Coupe du Monde jusqu'à présent, il peut en marquer un 8ème et revenir à une unité de Eusebio qui lui avait marqué 9 buts en une seule compétition, alors que Cristiano Ronaldo a déjà joué 4 Coupes du Monde avec allez, Cristiano Ronaldo qui va s'élancer. Il est en train de regarder l'arbitre, la prise d'élan de Cristiano Ronaldo face à Ziggy. C'est frappé en force et c'est en fond. Ça fait 1-0 pour le Portugal, les héros sont éternels. Chou vient de crier à l'unisson le stade 974, vous l'avez entendu lors de la célébration de Cristiano Ronaldo. Oui, c'est plus qu'un joueur, c'est une marque. Cristiano Ronaldo, il vient de le prouver encore une fois. 1-0 en faveur du Portugal.
Et tout le Portugal, toute la sélection, les remplaçants en plus sont venus communier au poteau de corner avec Cristiano Ronaldo. Ouais. Si certains avaient des doutes sur les conséquences de l'affaire Ronaldo sur le,
à part Bruno Fernandez qui était un petit peu en retrait.
Ouais, encore.
Voilà. Mais c'est pas grave. De toute façon, il va se mettre comme les autres. Hein. Il va être derrière Cristiano parce que dans tous les cas, même si le penalty est bah oui, il y a faute, les gars. Il touche le ballon en premier, il est déséquilibré. Voilà, et d'ailleurs voir l'action ralentir.
C'est même Mathieu Gallien touche vraiment la balle.
Et voilà, donc
et le réalisateur de la rencontre qui s'est attardé sur le regard radieux de Cristiano Ronaldo en train de savourer son moment avec ce 8ème but en Coupe du Monde. Après avoir célébré avec ses coéquipiers, il s'est arrêté. Il a juste écouté le stade. Il s'est régalé de ce qu'il était en train de vivre. Un moment forcément intense pour Cristiano Ronaldo. Beaucoup décrié et qui répond, certes sur pénalty, certains pénalty, on va dire généreux à l'avantage du Portugal, mais ça fait 1-0 pour les Lusitaniens.
Manu, est-ce que les ralentis qu'on a aperçus te font revoir ton jugement ou tu maintiens? Il n'y avait pas pénalty. Manu est parti.
Oui, non, certes, c'est Cristiano qui touche le ballon en premier, sur une demi-seconde. Derrière, tu as le joueur canadien qui touche également le ballon.
Non.
Et après, il y a contact. Et après, il touche pas le ballon. Et il tombe, voilà. Voilà, comme bon,
okay.
Très facile. Comme
pour toi, c'est
piscine.
Très généreux.
Ah, quand tu peux lui l'acti extrêmement généreux. Ouais.
Ok. Ouais. Allez, 1-0 pour
le Portugal.
Tu peux
lui mettre une couche à Cristiano.
Non, allez, mais arrête. Il faut... Non, mais il faut être.
C'est dingue.
Non, mais sincèrement, je me fiche de savoir si c'est Cristiano ou pas. J'essaye d'être le plus objectif possible. Et moi, même sur le ralenti, pour moi, il n'y a pas péno.
Manu, te fais pas piéger par Jérôme.
Non, c'est pas... Non mais Manu, t'as aidé défenseur aussi avant d'être une référence dans le milieu de terrain.
Non, mais
et je suis désolé, quand le défenseur intervient comme ça, si t'es pas sûr, tu dois maîtriser ton geste. Tu dois pas donner envie à l'arbitre de siffler un contact.
Mais il est où le contact quand tu dis... Explique-moi.
Bah, le contact, il est que quand tu cours lancer avec le ballon, tu le sais très bien que tu touches en premier et que le défenseur, il vient de percuter. C'est sûr que même si c'est un petit contact, et ben tu te déséquilibres. Et le risque, c'est que
tu vas avoir 20 pénalties par match.
Et ben ouais, mais peut-être, ouais, mais
c'est ce que je te dis, la VAR ne sert à rien.
Sauf que beaucoup d'attaquants n'ont pas la vista, l'expérience de Cristiano Ronaldo.
Écoute, Jérôme, 1-0, toi, c'est ton avis. Pour moi, il n'y a pas péno.
Je sais.
Voilà, vous avez un avis contraire. On débat, c'est RMC en même temps.
Mais après, je regarde les.
L'arbitre, en tout cas, est d'accord avec Jérôme, puisqu'il accorde.
Je regarde les sondages et ils sont tous d'accord avec moi.
Je suis même persuadé que dans la VAR, ils sont tous d'accord aussi.
Ouais. Ah ouais, je viens d'avoir Stéphanie Frappard m'a dit t'as totalement raison, il y a pénalty.
Allez. Allez messieurs, 18h25 à Paris, 20h25 à Doha au Qatar où RMC a installé son studio pour l'intégrale.
Mais monsieur Gary Bion m'envoie un message.
Respectez un peu ce qui se dit s'il vous plaît. Portugal Ghana, Timothée Mémon.
1-0 pour le Portugal face au Ghana, but sur pénalty de Cristiano Ronaldo à la 65e.
Évolution des cotes, Julian Bougneuf.
1-0-3 la victoire du Portugal maintenant, 9 le match nul et 55 la victoire du Ghana. Le 1-0 de Jérôme Rotten est à 2-0-5 maintenant si ça reste comme ça.
Ouais. Ah oui, Jérôme a bien inspiré à la mi-temps. Bon, 1-0 pour le Portugal face au Ghana. On va voir si les Ghanéens réagissent dans une seconde. Et puis mon débat sur le Brésil, on va le faire.
Quand même, on va y arriver.
Voilà, ça fait deux jours qu'on le traîne.
Ouais,
est-ce que les problèmes des Brésiliens.
Deux heures, tu veux nous le mettre
à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h27 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, spécial Coupe du Monde, bien sûr. C'est Portugal-Ghana en direct. Il reste 20 minutes. 1-0 pour les Portugais. But de Cristiano Ronaldo sur pénalty. On est avec Jean-Louis Tour en direct de Doha. On est avec Manu Petit et avec Timothée Mémon au stade, Jean-Louis.
Voilà, ah, c'est bien qu'on s'écoute un petit peu, qu'on pose des bases, des débats. Ouais. On va parler tout à l'heure des stades à moitié remplis. Oui, c'est moi. Alors, également du Brésil, juste après un point sur Portugal-Ghana, Timothée.
Toujours 1-0 en faveur du Portugal grâce à un but signé Cristiano Ronaldo sur pénalty à la 65e minute de jeu. Pénalty peut-être généreux selon certains accordés au Portugal. Toujours est-il que cette équipe lusitanienne est devant, mène 1-0 sans avoir été génial, hein, pour être franc jusqu'à présent. Après 70 minutes de jeu, n'ont pas été grandioses. Un match qui se déroule sous les yeux d'un certain Kalidou Fadiga, fraîchement diplômé du Master of International Player délivré par l'UEFA
sur RMC
et qui est venu
hier.
Voir. Et qui est venu voir effectivement cette rencontre.
Et il est venu voir notre studio surtout hier. Et c'est pas rien quand même. Passage obligé à Doha maintenant. D'ailleurs, si vous êtes français à Doha, manifestez-vous et puis vous aurez la place dans l'after ou dans Roten sans flamme.
Pour la bonne déviation de Cristiano Ronaldo, c'est pour Joao Félix. Le retour in extremis nécessaire du fautif tout à l'heure sur le pénalty Salisu. On en reste à 1-0 pour le Portugal après 71 minutes de jeu.
L'événement, c'est donc l'entrée en lice du Brésil dans 1h30 maintenant dans cette Coupe du Monde avec Brésil-Serbie à 20h. Alors autant vous dire, Jérôme, il a un t-shirt jaune, c'est pas pour rien. Jérôme, il est brésilien depuis des jours et des jours.
Il l'a noté, ça
bien sûr. Il n'arrête pas de nous parler du Brésil. Tu as hâte de les voir, c'est pour ça qu'on met la musique samba, évidemment. Est-ce que selon vous, le Brésil a réglé tous ses problèmes précédents? On pouvait parler parfois d'une équipe déséquilibrée dans certains secteurs, d'une équipe qui avait du mal à gérer son émotion, d'une équipe qui parfois se laissait un peu vivre et était en décalage avec le haut niveau. Est-ce que tout ça, c'est réglé? Et on va le voir ce soir, Jérôme. 32-16, hein, bien sûr.
Je le souhaite vraiment, Jean-Louis, parce que je suis un amoureux du football, je suis un amoureux du Brésil, forcément, parce que, voilà, on a... ça représente beaucoup
de choses. La mine de la part des Ghanéens qui est stoppée par le gardien Diogo Costa, mais quel coup de canon de la part du numéro 20, il me semble que c'est Koudous, encore une fois, s'offre cette occasion, frappe surpuissante à l'entrée de la surface de réparation. Heureusement qu'elle n'est pas un mètre à droite, un mètre à gauche, parce qu'elle vient directement sur Diogo Costa, qui est tout heureux de pouvoir l'arrêter en deux temps. Frappe surpuissante, on en reste à 1-0 pour le Portugal.
Non, mais je te disais, quand t'aimes le foot, forcément, tu peux que apprécier.
L'égalisation ! André Ayou dans la surface de réparation avec ce débordement côté gauche qui vient surprendre le Portugal. Ce centre en retrait dans les 6 mètres, ça cafouille. Mais André Ayou est là pour mettre le plat du pied et pousser ce ballon au fond. Il venait d'y avoir la première réaction ghanéenne sur cette frappe surpuissante de Koudous. Et cette fois, c'est André Ayou, le capitaine courage, le leader de cette formation des Black Stars, qui égalise un but partout entre le Portugal et le Ghana.
La sensation, messieurs, la sensation.
Premier but.
On s'attendait. Premier but d'une nation africaine dans cette Coupe du Monde avec le but du Ghana et surtout le Portugal tenu en échec. Alors on va conclure rapidement sur le Brésil et on va revenir sur cette rencontre. Hein.
Oui. Moi, voilà, outre mon côté passionné, mon côté. Quand je vois l'équipe alignée ce soir, il y a beaucoup de techniques. Technique en mouvement, joueur de grande qualité. Donc oui, j'ai hâte de voir ce que donne.
Là, on annonce quasiment un 4-2-4. On verra avec les compos
très offensifs,
mais 4 joueurs offensifs plus Paqueta au milieu, plus des latéraux.
Bon, après il va falloir défendre aussi, hein, parce que la Serbie, il y a des bons manieurs de ballon.
C'est pour ça.
Mais c'est pas parce que t'as une qualité technique supérieure à la moyenne dans toutes les positions, parce que franchement, il n'y a pas un joueur qui a le pied carré au Brésil que tu peux pas défendre ensemble. Moi, j'attends de voir cette union sacrée, cette ambiance collective du Brésil, parce que s'il confirme tout ce qu'on entend depuis le début, où certains disent que c'est de l'arrogance, je pense que ça peut faire très mal sur le terrain. Ça veut dire qu'ils vont être unis, ils vont faire les efforts les uns pour les autres, ils vont céder, et avec le ballon ça peut être fantastique. Donc ça peut être feu d'artifice, j'espère en tout cas.
Manu, tu vois les choses comme ça aussi, feu d'artifice ce soir?
Je l'espère aussi, hein, pour nous tous amoureux du foot. Maintenant, moi, je maintiens ce que j'ai dit et je le répète à chaque fois parce que c'est ce que je pense. Pour moi, le Brésil est en mission. Ils sont en mission. Neymar est en mission. Alors, je vais encore me tromper certainement, mais c'est mon ressenti quand je regarde cette équipe. Je la trouve extrêmement complète. avec des options beaucoup plus intéressantes que par le passé, et surtout un Joga Bonito que ça faisait longtemps qu'on voyait plus du côté brésilien, quoi. L'inspiration, la créativité, puis des joueurs qui s'éclatent avec le sourire sur le terrain. Moi, à chaque fois que je vois un Brésilien sourire sur le terrain, ça me fait peur.
Ah là, c'est vrai qu'ils sourient beaucoup. En ce moment, les Brésiliens, ils ont même répété leur danse. Donc, on verra combien de danse on verra ce soir face à la Serbie. Mais bon, ça peut chauffer aussi les adversaires, ça.
Exactement.
Là, dans le vestiaire, puis ils vont faire zéro danse.
Et puis, ils ont bien vu ce qui s'est passé depuis le début de la Coupe du Monde aussi. Hein. Donc, ils sont prévenus. Hein.
Bah c'est pour ça, exactement. Ouais. On laisse le Brésil de côté, on y reviendra tout à l'heure. Hein, dans Rotten s'engage d'ici une heure à peu près avec l'avant-match, les compos d'équipe. Et on sera autour du stade parce que c'est un événement au Qatar, l'entrée en lice du Brésil. Évolution des cotes sur Portugal, Ghana, Julian Boubnov.
2,25 la victoire du Portugal, 1,80 le match nul et 8,50 la victoire du Ghana. Si on peut partir sur le 2-1 côté à 2,85.
Oui, parce que le 1-0 de Jérôme.
C'est un petit peu terminé.
Il a sauté.
Merci Julian.
C'est dommage parce qu'on n'a pas commenté l'action qui a amené l'égalisation du.
Vas-y.
Non, parce que j'ai trouvé un gros manque de communication dans la défense centrale entre Danilo et Diaz. Parce que c'est le joueur, c'est Ayou qui part dans le dos de Diaz alors qu'il est au marquage. Et il n'y a pas de communication entre lui et Danilo. Et c'est ça qui est très préjudiciable parce que derrière, c'est en retard surtout.
Emmanuel, je ne sais pas ce que tu en penses depuis le début de cette rencontre. Danilo, c'est pas franchement convaincant hein, en défense centrale. C'est lui qui est mis sous pression systématiquement sur les relances. Il est en difficulté, le défenseur du Paris Saint-Germain.
Je vais me faire son avocat. Timothée. Je tombe pas de ma chaise sur la performance des milieux de terrain, notamment de ceux qui jouent en sentinelle devant la défense. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de protection.
C'est pas faux. Et puis il faut aussi noter le joueur qui a donné la passe décisive à André Ayou, c'est Koudou. C'est pas la première fois qu'il vient s'intercaler dans la ligne d'attaque comme ça. Franchement, c'est un très bon joueur.
Ah ouais.
On le découvre un petit peu pour ceux qui suivent pas l'Ajax, mais il joue de temps en temps à l'Ajax, pas souvent. Mais il a vraiment beaucoup de qualité avec son pied gauche. Là, il est capable de faire des vraies différences. Il a une bonne frappe, une bonne vision du jeu. Vraiment il est surprenant sur cette rencontre.
Il est excellent depuis le début de ce match. Koudous, effectivement, le joueur de l'Ajax, il vient de sortir, malheureusement remplacé par Ousmane Boukhari, souvenez-vous, l'ancien joueur de Nantes. Et puis Jordan
avec Neymar, il fait une interview au Guardian. Il aurait dit dans cette interview j'ai rien envie à Neymar.
Qui a dit ça?
Koudous.
Ah ouais,
ouais, ouais.
Ah, mais il est sûr de
pas
plus
moins bon. Et en fait, comme ça a pris beaucoup de proportions,
attention à ce ballon, attention au Félix de Buza en faveur du Portugal avec ce ballon en profondeur. Joao Félix, le sang-froid, le relâchement, vraiment la vista pour mettre ce ballon au fond. Il est en décontraction totale, lancé dans la profondeur alors que Ziggy sort au devant de lui. Petite balle très légèrement piquée, juste un petit peu au-dessus pour finir au fond des filets. Ça fait 2-1 en faveur du Portugal. Ils viennent de tout gâcher, les Gadéens, parce que clairement il y a eu un manque de communication et une erreur défensive qui ont permis à Joao Félix de partir dans leur dos. C'est un petit peu dommageable pour les Gadéens. Relativement logique quand même au regard de l'ensemble du match que les Portugais mènent au score.
Pourtant il est sur la trajectoire, le latéral gauche, hein.
Il ralentit pas sa course effectivement, le latéral gauche, c'est Baba qui essaye de ralentir et au lieu de ça il la prend, j'ai l'impression, entre les jambes. Joao Félix.
Ah ouais, c'est cruel là pour les Ghanéens qui étaient revenus dans cette rencontre, qui croyaient d'ailleurs et commençaient à sortir de plus en plus.
Ouais.
Mais là, ils sont climatisés, les Ghanéens.
Ouais, ça va être dur. Puis en plus, il vient de faire des changements judicieux, hein, le sélectionneur ghanéen. Il a sorti le meilleur joueur offensivement, déjà qu'il n'en avait pas beaucoup. Alors là, je vois pas comment ils vont essayer d'arracher un résultat positif.
Et Ruben Neves a laissé sa place à Raphaël Léao.
Très belle finition hein, de.
Ouais.
Ouais. Quelle est cruelle cette image d'André Ayou qui venait d'égaliser, qui était sorti sur l'action précédente après avoir égalisé, qui était en train de se congratuler, de tomber dans les bras de ses partenaires et qui tout d'un coup sent qu'il se passe quelque chose dans son dos, se retourne et voit le ballon finir au fond des filets. Très dur pour André Ayou, dont terrible. On voit toute la tristesse traverser le regard.
On va revenir dans une seconde pour la fin de cette rencontre. Le Portugal mène 2-1 face au Ghana. Désormais, il reste 11 minutes dans cette rencontre. C'est Roten sans flamme avec Jérôme Roten, avec Manu Petit. Un point sur les cotes qui ont de nouveau évolué avec ce deuxième but du Portugal.
Exactement, 1-0-4 la victoire du Portugal, 8 le match nul et maintenant 60 la victoire du Ghana. Ça risque d'être compliqué.
Et attention, c'est un 4 contre 3 avec ce ballon qui va être glissé. La frappe roulée, ça fait 3 pour le Portugal. Décalé sur ce côté gauche, magnifique contre, parfaitement mené, parfaitement orchestré, et ça fait 3 buts à 1 avec ce ballon enroulé, ce petit plat du pied de la part de Raphaël Léao qui déboulait côté gauche, il vient de rentrer, et voilà que le Ghana qui avait égalisé vient de prendre 2 buts en 2 minutes. C'est terminé probablement des chances des Ghanéens avec ce troisième but signé Raphaël Léao, mais quel contre d'école.
Premier ballon, il me semble, pour Léao depuis qu'il est entré, et ça fait but. C'est pas mal aussi pour le Portugal quand tu peux te permettre de mettre Léao sur le banc et de le lancer comme ça un quart d'heure.
Magnifique, puis c'est bien mené. Là, c'est très juste techniquement. Alors, il y a une perte de balle encore une fois de la part des Ghanéens dans la construction et l'attaque rapide. Et
Bruno Fernandez, j'ai l'impression qu'il la donne exactement au moment où il le faut.
Regarde en haut. Par contre, si on est sur la même ligne, c'est en jeu ou?
Oui, même ligne, c'est en jeu.
Même ligne, c'est pas en jeu. Et même si je suis plutôt de l'avis de Manu sur toutes ces innovations dans le football, on rappelle quand même que les nouveaux ballons, on envoie 500 données à la minute à des caméras qui sont au-dessus du stade pour définir à quel moment le ballon quitte le pied du joueur qui fait la passe. Ça s'appelle le système du hors-jeu semi-automatisé.
Il y a eu quelques bugs depuis le début
quand même.
Mais bon. En tout cas, cette technologie existe sur cette Coupe du Monde. 3-1 pour le Portugal face au Ghana. On revient dans une seconde pour la fin de cette rencontre dans Roten sans flamme.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Cristiano Ronaldo tout seul face à Ziggy, finalement signalé en position de hors-jeu alors qu'il avait pris le ballon à 45 mètres de la cage. L'arbitre qui décide de lever son drapeau longtemps, très longtemps après, alors que Cristiano Ronaldo venait de perdre son duel face à Ziggy. Il était tout près de son 9e but en Coupe du Monde. On en reste à 3 buts à 1 après 83 minutes de jeu en faveur du Portugal face au Ghana.
Pourquoi laisser encore
Jérôme, vas-y, finis la présentation.
Oui, on est à 18h40, bien sûr, toujours Portugal Ghana en direct, 3-1 pour les Portugais. Il reste une petite dizaine de minutes. On est avec Jean-Louis Tour en direct de Doha et Manu Petit, bien sûr. Manu, qu'est-ce que tu voulais nous dire?
Je veux dire, encore une fois, pourquoi laisser l'action alors que tout le monde a vu leur jeu dès le départ? Parce que imagine Cristiano Ronaldo se blesse sur le contact avec le gardien. Imagine le gardien se blesse. Alors tout le monde a vu le même débat, leur Manu, jeu depuis 15 secondes.
Oui, mais c'est si t'as un doute, l'arbitre peut-être lui ne l'a pas vu. Mais aussi flagrant soit-il, l'arbitre de touche ou lui-même ne l'a peut-être pas bien vu. Donc il a un doute.
Ma grand-mère qui est dans les tribunes, elle l'a vu.
S'il a un doute, il lève pas son drapeau.
Il l'a levé après, à la fin de l'action.
Ouais, il a
laissé l'action se dérouler.
Ouais. Mais c'est ce que je dis.
Donc il avait un doute au début, mais il a plus de doute au bout de l'action.
Non, à la fin il dit il y a hors-jeu et comme j'ai un doute, on va vérifier. Mais il arrête l'action en levant le drapeau. Mais ça fait des années que c'est comme ça maintenant.
Les gars, sur l'action, vous êtes d'accord avec moi. On a tous vu Ronaldo au départ de l'action en jeu.
Tout le monde a le droit à l'erreur. Imagine, il se trompe et on arrête l'action et on se rend compte que finalement il n'y a pas hors-jeu et Ronaldo n'a pas pu finir l'action. Bah tu vas crier au scandale de la même façon.
Je pense qu'un jour on fera un débat là-dessus. Je pense qu'un jour on aura un joueur qui se blessera gravement à cause de ce genre de colère.
Mais donc dans ce cas, Manu, il faut supprimer la VAR pour les hors-jeux. Dans ces cas-là.
Non, moi j'ai une meilleure idée.
Parce qu'à partir du moment où tu la laisses,
tout court.
Oui, voilà, bah alors ça c'est un autre truc. Voilà. C'est un autre débat, effectivement. Mais siffler tout de suite et tu te laisses le droit de te tromper, ça provoquera d'autres injustices. Bon, bref, 3-1 pour le Portugal en tout cas face au Ghana. C'est ce qui nous importe le plus. Les Portugais qui sont en train de réussir leur entrée en lice. Alors les stades à moitié vides. Alors effectivement, ça se voit pas tout le temps parce que si vous suivez toute la Coupe du Monde à la télé, vous vous dites que il y a pas beaucoup de gros plans sur les tribunes. On a l'impression que même si c'est un peu clairsemé en bas des tribunes, ça a l'air d'aller. Avec tous nos reporters, la plupart de nos reporters qui sont au stade, qui commentent les matchs, se rendent compte que depuis le début de la Coupe du Monde, il y a pas des affluences de dingue. Nicolas Pelletier est avec nous, l'un de nos envoyés spéciaux à Doha. Salut Nico.
Salut Nico.
Salut messieurs, salut à tous.
Explique-nous pourquoi il y a autant de sièges vides.
Alors il y a quatre raisons pour expliquer pourquoi il y a autant de sièges vides. Tout d'abord, il faut comprendre que c'est la FIFA qui gère tout l'aspect ticket de cette Coupe du Monde, et c'est pas le comité suprême qui est en charge de l'organisation de la Coupe du Monde, pour bien comprendre ce dossier. Alors il y a une raison principale, tout d'abord, c'est que autour de cette Coupe du Monde, ce sont des Qataris qui ont acheté le plus grand nombre de billets. Et donc les Qataris possèdent des fois 20 billets pour plusieurs matchs de cette compétition, et les personnes peuvent en fait choisir le match où elles vont. Donc elles peuvent se dire, celui-là je vais le voir, l'autre je ne vais pas le voir, et donc en fait ça fait un choix, et donc ça fait une partie de sièges vides dans certains stades. Deuxième explication, c'est que les sponsors de la FIFA n'ont pas répondu présent pour émettre ces billets auprès de leur VIP. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux VIP qui ne se sont pas rendus au Qatar pour regarder ces matchs, et donc ça crée aussi des sièges vides dans l'ensemble des parties VIP. Hier, j'étais à Espagne-Costa Rica, et par exemple, une partie des sièges VIP de cette tribune n'était pas utilisée lors de cette rencontre. Puis il y a une autre explication, c'est qu'il y a de nombreux supporters de football en général qui ont acheté des billets lors de la phase de vente de la FIFA il y a quelques mois, mais qui ne se sont pas rendus au Qatar. Il y en a des milliers, et en fait c'est très difficile de revendre ces billets sur la plateforme de la FIFA. Des fois elles fonctionnent, des fois elles ne fonctionnent pas. Il faut aller sur la corniche de Doha pour revendre un billet. Enfin, c'est très compliqué, et donc au final ça crée aussi des places vides sur l'ensemble de cette compétition. Il faudra surtout regarder un aspect dans les prochains jours: ça risque de râler au niveau des diffuseurs de la Coupe du Monde sur les sièges vides qui sont visibles à l'écran sur cette Coupe du Monde.
Et il y a une autre donnée, c'est les départs en cours de match. Plusieurs commentateurs nous ont raconté ça. Là, Timothée, c'est comment
Justement, je voulais un peu prendre le contre-pied de ce qui était dit, parce qu'aujourd'hui on a plutôt une belle affluence, et c'est rare d'avoir de l'ambiance dans les matchs de Coupe du Monde. Pour ceux qui ont déjà fait des Coupes du Monde, et j'ai cette chance là, c'est rare qu'on ait des grosses ambiances. C'est pas comme une ambiance de Ligue des Champions ou un match de club où il y a des copes qui chantent, donc il y a forcément un petit peu moins d'ambiance. En revanche, pour ce qui est de quitter les stades un peu avant la fin, là on est en plein dedans, parce que face à moi, la tribune latérale était quasiment pleine pendant toute la rencontre, et là il y a clairement un quart de la tribune qui est parti.
Jérôme, qu'est-ce que tu penses de cet entente sur les tribunes?
Écoute, il y a un facteur aussi, c'est les matchs du premier tour. L'attractivité, elle n'est pas toujours présente sur la qualité de certaines affiches. Et donc, et ça sera le cas sur les deuxièmes matchs de poule. Il y a des affiches où ça va être difficile de remplir le stade, tout simplement. Donc, moi, ça me choque pas plus que d'habitude. Il y a eu plein de coupes du monde aussi qui se sont passées où les stades n'étaient pas forcément pleins au début. Là, ce qui me rassure, c'est que quand il y a des grosses nations, par exemple, on parle du Portugal ce soir, que le stade est bien rempli. Mmh. Donc, je pense que par exemple, je serais plus choqué dimanche soir, quand il va y avoir l'Espagne et l'Allemagne, que le stade ne soit pas rempli.
Ah oui, là on est d'accord. Voilà.
Si le stade est à moitié vide, là il faudra se poser des questions, mais pour l'instant on n'en est pas là.
Et pour aller dans le sens de Jérôme, c'est ce que nous explique le comité d'organisation. Ils disent que plus les matchs vont avancer, plus on va arriver sur la phase à élimination directe, et plus les stades seront pleins. Mais c'est vrai que par exemple hier, lors
du comité d'organisation.
Mais bien sûr.
Attention, deux buts à 1, 3 buts à 2.
Avec eux ce matin. Ah, but du Ghana.
Le but du Ghana. La réduction de l'écart avec ce but inscrit à l'instant sur une tête, encore une fois un cacofouillage sur le côté gauche, et c'est Ousmane Boukhari, l'ancien Nantais, qui est rentré tout à l'heure, qui vient réduire l'écart. Plus qu'un but, 3 buts à 2 entre le Portugal et le Ghana. On pensait que c'était plié, et bien le Ghana s'offre le droit de rêver pendant la minute de temps réglementaire qui reste et les minutes de temps additionnel.
Vers toi, Nico Pelletier, merci beaucoup.
Merci
Manu, est-ce que tu veux ajouter un mot sur les tribunes? On repart sur le match.
Non, je dirais que je pense que c'est les prix aussi sont prohibitifs. On me dit que les billets sont achetés, mais les gens sont pas venus. Est-ce que le fait d'avoir une Coupe du Monde au Qatar avec les prix prohibitifs en termes au niveau des hôtels et des avions aussi, ça peut avoir un enjeu, non?
Bien sûr, c'est une Coupe du Monde très chère, ça c'est sûr.
Exactement. Et là, on peut en parler aussi encore une fois de l'absence de Danilo là sur le.
Ah ben on y va.
Ouais. Ah c'est incroyable. Ah,
absolument. À aucun moment, complètement effacé, Danilo, pas placé au bon endroit, sans avoir conscience de la présence dans son dos d'Ousmane Boukhari. Et là d'ailleurs il vient faire faute, Danilo, attention, attention à ce geste d'humeur de la part du Ghanéen. C'est Inaki Williams qui se retourne, qui met un coup de coude. Monsieur l'arbitre qui est en train de calmer tout le monde, il a un carton jaune à la main.
terrain. Est-ce qu'il va changer sa décision, changer la couleur et chauffourer sur la pelouse du stade du 974 avec ouais, l'arbitre américain qui a du mal hein, à se faire respecter. Ça se chauffe et Danilo Pereira, probablement conscient aussi de ses errances, est en train de montrer toute sa frustration. Inaki Williams et Danilo qui sont en train de s'expliquer et monsieur El Fat qui est en train de calmer, d'essayer d'être pédagogue avec les deux joueurs. Je vous rappelle le score, on est à la fin du temps réglementaire, il y a 3-2 en faveur du Portugal. Des buts de Cristiano Ronaldo, Joao Félix et Rafael Leao, contre des buts d'André Ayou et d'Ousmane Boukari. À l'instant, il va y avoir du temps additionnel, 9 minutes de temps additionnel. Ah ouais. Les cartons jaunes ont été sortis à l'encontre de Danilo Pereira et d'Inaki Williams. Les deux joueurs ont donc été avertis sur cette action. Encore une fois, il y a un très vilain geste hein, d'Inaki Williams qui s'agace auprès de Danilo, où il est pas loin de lui mettre un mauvais coup de coude. Ouais. Bref, il va rester donc 9 minutes de temps additionnel.
À l'arrivée, pas de conséquences directes, deux cartons jaunes. Évolution des cotes, Julian Bougnoff.
1-0-2 la victoire du Portugal, 11 le match nul et 120 la victoire du Ghana. Le 3-3 est coté à 11,50, oui. Messieurs.
Eh bien, on va voir. Ils ont 8 minutes, les Ghanéens, pour aller chercher ce 3-3. 8 minutes parce qu'il y a déjà une minute qui s'est écoulée dans le temps additionnel qu'on va suivre sans aucune interruption sur RMC avec Jérôme Rotten, Manu Petit et Timothée Mémon au stade.
Et on est dans ces minutes en plus avec ce ballon qui va sortir. Ce sera un 6 mètres pour les Portugais. Je vous parlais d'une très bonne ambiance tout à l'heure à 3-1. Portugal entonné par tous les supporters, a fait carrément vibrer cette enceinte et a fait trembler les tribunes de ce stade un petit peu particulier dans sa conception. On en a parlé, fait avec des containers. Et puis maintenant, ce sont les supporters du Ghana qui sont en train de donner de la voix, toujours aussi exubérants avec les torses colorés aux couleurs du drapeau des Black Stars. Et on va procéder à des derniers changements pour Otto Addo avec la sortie d'Inaki Williams qui venait
du temps d'arrêt. Ouais. Timothée, on revient vers toi dès que le jeu reprend. Jérôme, tu sens les Ghanéens capables de, avec l'énergie là.
Écoute, je les voyais sombrer après le troisième but et puis l'erreur
mentale quand même. Hein.
L'erreur de Danilo, mais surtout l'erreur de Cancelo. Cancelo au départ aussi, parce que il est complètement naïf sur le rebond du ballon. Il est pris dans le duel. Il permet à l'attaquant ghanéen de centrer et de délivrer cette belle passe décisive pour le but ghanéen. Donc là il peut tout se passer. En plus maintenant on a la chance d'avoir énormément d'arrêts de jeu, donc
encore 7 minutes Timothée Mémon.
Ouais, 7 minutes de temps additionnel et le ballon est dans les pieds ghanéen qui essaye de se projeter vers l'avant. Attention avec cette balle, la nouvelle possibilité de centre, c'est mal géré et ça va partir directement en 6 mètres là. Il a confondu vitesse et précipitation, le pauvre Seylou, et il a mis ce ballon directement hors des limites du terrain. Ça va donc rendre cette balle au Portugais. Ça s'échauffe un petit peu, ça se parle et on essaye de gagner du temps forcément côté portugais, de grappiller quelques secondes. Le score est de 3-2 en faveur du Portugal. On a fait rentrer Carey à la place de Inaki Williams à la pointe de cette attaque ghanéenne. Essayer d'apporter un petit quelque chose. Excellent joueur, le joueur de Fribourg, hein, Daniel Kofi Kéré, qui est un joueur non seulement de qualité, mais également un garçon charmant et très intelligent. Ballon sur le côté gauche avec les Portugais qui essayent de conserver la balle et il va y avoir une faute sur Bruno Fernandes qui, ça, avec l'expérience, sait grappiller ce genre de ballon. Petit arrêt de jeu, messieurs. 3-2 en faveur du Portugal face au Ghana.
3-2 dans cette rencontre. Manu, oui. T'as un petit sentiment sur ce qui va se passer? Tu penses que le Ghana va réussir à se créer des occasions au moins?
Moi, je pense que le Portugal va maintenir ce score.
D'accord. Après, il va falloir.
Tu prends pas beaucoup de risques, hein, il reste 5 minutes.
Et pourquoi vous pensez que Danilo va pouvoir. À mon avis, Danilo, à votre avis, il va rester il y a Pep sur le banc. Hein. Peut-être que dès le prochain match, il va y avoir un changement.
Ouais, je suis pas sûr. Danilo a beaucoup joué en défense centrale. Il a quand même fait des matchs intéressants avec le PSG dans ce rôle-là. Donc. Là aujourd'hui il est pas bon, mais
attention au débordement de Rafael Leao qui rentre dans la surface de réparation, qui a essayé d'écarter là-bas vers João Mario qui était rentré tout à l'heure et qui attendait ce ballon. Il a fallu une sortie du bout du pied de la part de la défense ghanéenne. Nouvelle possibilité pour les Black Stars d'aller de l'avant et ce ballon va être directement vers le gardien Diogo Costa qui se fait bousculer. Ils sont très tendus les Ghanéens, ils font beaucoup de gestes qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils ont failli passer pas loin du rouge et là d'ailleurs il y aura un carton jaune sorti par l'arbitre de la rencontre mais qui ne s'est pas déplacé, donc vous dire à qui il l'a sorti exactement. Il a brandi son carton jaune en l'air mais l'action avait repris
pour Bruno Fernandes.
Ouais, possiblement pour Bruno Fernandez.
C'est dommage sur l'action précédente. Léao, il aurait dû la finir tout seul. Il a été trop collectif dans la surface, je pense.
Il a peut-être essayé à tout prix de trouver Joao Mario avec justement un débordement. Ballon dans l'axe, nouvelle possibilité avec le changement d'aile de Santos. On trouve Raphaël Léao. Raphaël Léao entré sur phase de réparation. La tentative de frappe enroulée, ça va buter sur un torse costaud d'un Ghanéen qui n'a pas tremblé face à cette frappe puissante. Et ballon récupéré une nouvelle fois par les Portugais. On a joué 5 minutes dans le temps additionnel de cette rencontre. Le Portugal mène 3 buts à 2. Il va rester donc 4 minutes à jouer dans ce temps additionnel puisque 9 minutes ont été annoncées. Ballon sur le côté gauche pour Bruno Fernandez qui va tranquillement s'emmener cette balle, être poursuivi par Kofi Kiéré qui va mettre cette balle en touche. Il va évidemment aller demander à ses adversaires portugais de la jouer rapidement. Monsieur Elfat, l'arbitre de cette rencontre, qui lui aussi va demander aux Portugais d'accélérer un petit peu le mouvement. Ils espèrent revenir, les Ghanéens qui étaient revenus à un but partout et puis qui ont été surpris par 2 buts consécutifs du Portugal. Ils sont à présent à 3-2. Ils sentent l'exploit possible, celui de revenir dans cette rencontre. Les Portugais, eux, évidemment, grappillent des secondes. Cette touche sur le côté gauche avec un ballon qui va revenir dans les pieds portugais. Raphaël Guerreiro qui va une nouvelle fois obtenir la touche. On grappille des secondes précieuses, évidemment. Il va rester 3 minutes.
Temps additionnel. Toujours 3-2 pour le Portugal face au Ghana. On reste bien sûr sur cette rencontre. 32-16, si vous voulez revenir sur ce match. On reviendra aussi sur l'équipe de France. Après 19h, Kylian Mbappé, qu'avez-vous pensé de son match face à l'Australie? Est-ce un match réussi? 32-16, Portugal-Ghana, Timothée Mémon.
Allez, on est dans les 3 dernières minutes de ce temps additionnel avec le ballon dans les pieds portugais qui évidemment essaye de faire la passe à 10, de garder ce ballon aux avant-postes avec Raphaël Léao qui cherche la profondeur. Il y a la possibilité de trouver Santos sur une faute. Il y aura une faute et l'agacement, attention, d'Amarté une nouvelle fois qui vient un petit peu bousculer Ramos. Ramos, ouais, qui était au sol et inutile là, les paroles d'Amarté, je vous dis, ils sont extrêmement tendus, les Ghanéens, le début du match. Ils multiplient les vilains geste.
Non, mais ça, là, c'est de la faute de l'arbitre. Hein. Il aurait dû les calmer tout de suite parce qu'il mérite au moins un rouge sur le match. Donc à partir de là, tu les laisses comme ça, ils sont dans l'excitation. En plus, ça, ils sont revenus à un but, donc forcément.
Ah, le coup franc, attention, c'est mal sorti. Si c'est sorti tout de même par Ziggy, excuse-moi Jérôme. Allez, peut-être avec le contre ghanéen avec Jordan Ayew, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis qu'il a remplacé son frère André tout à l'heure. Jordan Ayew qui va être sollicité sur le côté gauche. Il y a du monde côté ghanéen. Il y a 4 joueurs offensifs qui réclament ce ballon dans la surface de réparation à l'intervention costaud, viril de la part de Joao Cancelo, peine d'autorité avec la touche jouée par les Ghanéens. Ce ballon dans la surface, le centre-tir, ça va passer au-dessus de la barre transversale et un frisson est passé entre les omoplates de tous les supporters portugais présents ici au stade du 974 parce qu'on a bien cru que ce ballon pouvait potentiellement surprendre Diogo Costa. On est dans le temps additionnel encore et toujours de cette rencontre.
Une minute encore,
on vous l'a dit,
une minute
exactement
pour le Ghana pour revenir, une minute à tenir pour les Portugais.
Parce que le Ghana est mené d'un but, 3-2 pour le Portugal. Dégagement à venir pour Diogo Costa. Cristiano Ronaldo est debout en train d'haranguer ses coéquipiers. Ça n'est pas sans rappeler la finale malheureuse. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais la finale malheureuse de 2016 où il était hors du terrain, mais où il était quasiment entraîneur adjoint. Souvenez-vous, Cristiano Ronaldo, et bien là, il est encore debout dans la zone technique, juste derrière Fernando Santos, qui lui est en train de continuer à donner des consignes. Les derniers instants de ce match, il va rester 45 secondes à jouer dans le temps additionnel. La longue touche, on cherche Raphaël Léao qui va pas s'embarrasser, qui va dévier, mettre ce ballon hors des limites du terrain. Ziggy qui réclamait de la part des ramasseurs de balles de récupérer un ballon et rapidement. Finalement, il va se charger d'aller chercher cette balle. Ouais, ce sera la dernière munition probablement pour les Black Stars. Les Black Stars qui ont connu évidemment l'une des meilleures histoires d'une sélection africaine en Coupe du Monde en arrivant en quart de finale. C'était en 2010, souvenez-vous, en Afrique du Sud. Jamais une sélection africaine n'a fait aussi bien. Le Sénégal et le Cameroun avait fait aussi bien, avait fait égalité, mais n'avait pas fait mieux, pardon. Tu vas bien de me reprendre. Ce sont les 3 sélections à être arrivées en quart de finale. On n'a jamais réussi à passer ce plafond de verre côté sélection africaine. Ballon dans les pieds de Kiéré qui va écarter sur le côté gauche. La nouvelle montée avec la dernière possibilité. Ce ballon dans la surface de réparation, ce sera capté dans les airs sans aucun problème par Diogo Costa qui se couche sur ce ballon, qui laisse les secondes s'égrener et qui va probablement, sur ce dégagement, laisser l'arbitre de la
rencontre, siffler la fin de ce match. Diogo Costa qui prend tout son temps. Attention, il n'a pas vu derrière lui ce ballon qui va être récupéré. La récupération du Ghana. Oh, ils ont failli faire la boulette, l'énorme boulette. Il a mis ce ballon au sol pour ne pas la garder plus de 6 secondes. Il l'a mis au pied et derrière lui, il y avait un joueur ghanéen qui traînait par là, qui a failli lui chipper la balle. Et le dernier contre portugais, peut-être pour sceller cette rencontre avec Bruno Fernandes, le crochet de Raphaël Leão qui va conserver ce ballon et laisser une nouvelle fois le temps s'égrener. Monsieur l'arbitre n'a pas l'air décidé à siffler la fin de ce match. Ballon qui va revenir vers William Carvalho. La petite déviation de Bruno Fernandes. On est à l'entrée de la surface de réparation. Le ballon est ghanéen, le long dégagement. Et c'est terminé. Victoire 3 buts à 2 du Portugal. Ils pourront s'en vouloir, les Ghanéens. Ils avaient fait probablement le plus dur en revenant un but partout. Ils se sont laissés surprendre, faute de concentration. Juste après le but de l'égalisation, ils en ont pris 2 consécutivement, de Joao Félix et de Raphaël Leão. Le but de Boukari à la 89e, l'aura offert 10 minutes de temps additionnel pour rêver, mais ça n'aura pas suffi. Victoire du Portugal sur le Ghana. Ronaldo, João Félix, Raphaël Leão contre André Ayew et Ousmane Boukari.
Votre match sur RMC avec Groupe Verlaine, expert de l'isolation par l'extérieur et du photovoltaïque pour maisons individuelles. Groupeverlaine.com. RMC. Coupe du monde de la FIFA 2022.
Quel scénario, quel match de fou. 3-2 pour le Portugal finalement face au Ghana. Le Portugal qui n'est pas passé loin de se faire égaliser sur un but complètement gag. Mais finalement, ça a tenu pour les Portugais. Dans une seconde, Roten sans flamme. La une de Roten sans flamme qui pendant la Coupe du Monde passe à 19h. Kylian Mbappé a-t-il pleinement réussi son match contre l'Australie? On vous donnera des infos sur la journée des Bleus également. Et puis le Brésil, c'est l'autre événement. Dans une heure, début de sa Coupe du Monde face à la Serbie. A tout de suite dans Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.